Renaud, qui est un rationaliste, je crois, j'avais lu dans un article de lui qu'un jour il s'était surpris en train de s'identifier à une protéine pour voir comment il allait réagir. C'est-à-dire que même inconsciemment, il y a cet usage.
Et même que hier, s'identifier à la séphirote, n'est-ce pas? Il voulait écrit textuellement hier, il faut s'identifier à la séphira Keter ou à la séphira Tiferet, n'est-ce pas? Tiferet étant le centre de la construction, c'est le moi transcendantal. Si on admet que Tiferet c'est le moi transcendantal et tout l'indique, s'identifier au moi transcendantal dans certains états, ça va de soi. Ça, c'est l'état de la réduction phénoménologique. Il n'y a plus de problème à ce moment-là. Vous êtes en plein dans un indépassable absolu, en vous. Ce qui n'empêche pas que le monde continue à être en voie d'inachèvement, la connaissance du monde. Vous avez dit, tout c'est le contraire. Présence de l'indépassable, une dialectique de l'inachèvement. Voilà. Et ça, vous ne pouvez pas le faire. C'est la vie qui est comme ça, n'est-ce pas? Vous savez, le problème des rapports de l'un, de l'unité et du multiple, il est insoluble. C'est un problème qui n'est même pas philosophique. Comment le multiple est-il sorti du 1? Vous le constatez. Comment le multiple vous reconduira-t-il à l'un? Par quelle démarche? Vous le constatez aussi. Mais expliquez-le, c'est une autre paire de manches. Le passage du multiple à l'un, on peut le concevoir par tous les yogas, toutes les voies, toutes les... Et l'inverse. La sortie du multiple hors du 1. Poser un problème comme ça, vous pouvez le poser, mais prétendre le résoudre, là, c'est vraiment la stupidité, quoi. C'est pas possible. Il y a une régression à l'infini qui se fait. Et il faut l'accepter comme ça, c'est là l'humilité de la connaissance. Cette régression, tenez, le type qui parlait de morphogenèse l'autre jour, la causalité formative, les formes qui sortaient les unes des autres, qui étaient préformées, qui néanmoins sortaient les unes des autres. On lui a dit, mais monsieur, comment ça a commencé? Ben, je veux dire, je ne sais pas, c'est un problème qui ne se pose même pas. Il était un savant, il faisait expérimentalement, il étudiait la genèse des formes successives. Comment ça a commencé? Alors, on parle de Big Bang. Alors là, c'est anthropomorphe, ça, vous comprenez. Je ne suis pas très d'accord, moi, là-dessus. Alors, ça ne me satisfait pas, quoi. Et c'est peut-être bien que l'atome primitif, bon, l'explosion initiale, c'est une vision anthropomorphique, selon moi. Mais je n'en ai aucune autre à vous proposer, sauf celle de Hoyle, qui me satisfait pleinement. Nous avons parlé de Hoyle tout à l'heure, n'est-ce pas, sa théorie de l'univers stationnaire. Elle était sensationnelle, moi j'étais enthousiaste quand j'ai appris ça, par rapport aux cosmologies de Einstein et celles qui sont dérivées de Einstein dans les années 20, et puis qu'il a continué toute sa vie, et puis celle de Milne. Il y a trois sortes de cosmologies, si vous voulez. Il y a celle de Einstein et les dérivés, celle de Milne, celle de Hoyle. Et en 1950 ou 55, c'était fixé, ça. On était là. Et moi, je me disais, mais oh, il est un type fantastique, formidable. D'ailleurs, il est remarquable, ce type. C'est ce qu'il écrit. Il a même fait des romans de science-fiction qui sont très étonnants, vous connaissez. Et puis, malheureusement, est arrivé la découverte des radiosources, et qui, paraît-il, était incompatible avec la théorie de l'univers stationnaire. Moi, je me suis toujours dit, c'est pas possible, il faut qu'un jour, oh, il trouve la synthèse.